Il y a un texte que la petite Thérèse connaissait grâce à sa sœur Céline. C'était Céline ou Cécile ?
Céline.
Qui avait recopié certains textes de la Bible, d'une Bible protestante. Vous savez qu'à l'époque, les catholiques n'avaient pas la Bible entière. Donc elle avait recopié des textes de la... Ça devait être la Bible seconde. Je ne sais pas si elle existait déjà à l'époque, à vrai dire. Mais en tout cas, la petite Thérèse était empressée de lire ces passages de l'Écriture. C'est Ecclésiastique 11:20. Sois attaché à ta besogne, occupe-t'en bien, et vieillis dans ton travail. N'admire pas les œuvres du pécheur. Confie-toi dans le Seigneur et tiens-toi à ta besogne. Car c'est chose facile aux yeux du Seigneur, rapidement, en un instant, d'enrichir un pauvre. Voyez la logique ? Je m'enfonce dans une vie d'abandon et d'humilité et de, comment dire, d'une obéissance de plus en plus recherchée comme le vrai trésor, c'est-à-dire pour nous, aimer Dieu, ça veut dire lui obéir. Et nous unir à lui, ça ne peut être que par un chemin d'obéissance. Qui est mon frère, ma sœur, ma mère, c'est fait la volonté du Père. Donc rentrer dans l'intimité de Dieu par la voie d'une obéissance filiale, dans des œuvres simples, dans la fidélité au devoir d'État. Sois attaché à tes besoins, occupe-t'en bien. Vieillis dans ton travail. N'admire pas les œuvres du pécheur, des personnes qui apparemment arrivent à faire de grandes choses, mais on ne sait pas quel est l'esprit qui les anime. Confie-toi dans le Seigneur et tiens-toi à ta besogne. Écoutez Pierre Goursat. Il y a une sainte qui est assez extraordinaire pour notre temps moderne. Nous connaissons bien, et que nous connaissons tellement bien, que nous ne nous rendons plus très bien compte. C'est Thérèse de Lisieux. Et c'est vrai. C'est vrai, une fois qu'on lui a donné son doctorat, on a eu l'impression qu'on l'enterrait. On passait à la suivante. Alors que, je dirais, elle est donnée pour le temps qu'on vit. Père Marie-Eugène disait qu'il y avait deux géants qui feraient rentrer l'Église dans le troisième millénaire et dans un renouvellement de la vie spirituelle, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et Saint Jean de la Croix. Je pense que c'est bien d'associer les deux, parce que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus s'est nourrie de Saint Jean de la Croix, qu'elle appelait le docteur de l'amour. Alors notre modèle, dit Pierre Goursat, c'est vraiment Thérèse de l'Enfant Jésus. En toute simplicité, elle a vécu cette petite vie apparemment médiocre. C'est Ecclésiastique 11. Hein. Sois attaché à ta besogne, occupe-t'en bien, elle était sacristine, n'admire pas les œuvres du pécheur. En toute simplicité, elle a vécu cette petite vie apparemment médiocre, mais pleine d'amour, parce qu'elle transformait tout par amour. C'est Thérèse qui disait, donc dans l'esprit de Saint Jean de la Croix, on peut sauver une âme en ramassant une épingle avec amour. Une petite qui était toute rapide, et rapide, c'était Thérèse de l'Enfant Jésus. Vous avez vu qu'à 24 ans, ça n'a pas traîné, elle était complètement enflammée, toute brûlée. Alors elle est vraiment venue pour nous enseigner cette voie, il n'y a pas 36 voies, une voie toute simple, que des gens tout simples et tout faibles, pour des gens tout simples, tout petits et tout faibles, comme nous sommes. Sainte Thérèse, elle est, comme je vous l'ai dit, cette voie d'enfance, elle est à comprendre comme le secret de la sainteté. Il n'y a pas 36 voies, dit Pierre Goursat. En fait, ce n'est pas une spiritualité parmi d'autres, c'est le cœur de l'évangile, puisque ça rejoint, ça nous met en phase directe avec notre prédestination. La petite Thérèse n'avait pas une vision christocentrique des choses à son époque, il n'y avait pas de théologie christocentrique, il n'y avait pas une insistance sur notre prédestination à devenir fils adoptif dans le fils unique, mais elle s'est laissée enseigner par l'Esprit Saint, elle était Thérèse de l'enfant Jésus, elle s'est laissée enseigner par l'enfant Jésus, elle a suivi, elle a découvert la voie d'enfance, vraiment par grâce, et c'est une grâce pour toute l'Église, encore une fois, c'est pas une spiritualité particulière. Thérèse de l'Enfant Jésus, continue Pierre Goursat, était bien prophète pour notre époque. Elle voulait être une grande sainte. Seigneur, j'ai mes désirs qui sont grands et moi je n'ai pas la force. Eh bien, je fais de tout petits sacrifices. Ce sont de tout petits sacrifices. Je ramasse une épingle, je ramasse un papier qui traîne, j'arrange une nappe qui est de travers. Et Pierre d'expliquer, si on fait ça par amour, c'est de l'amour, c'est l'intention qui compte. Si ton œil est simple, ton corps tout entier est lumineux. C'est l'intention qui compte, doit être compris d'une manière profonde et évangélique, c'est-à-dire l'intention qui compte, c'est l'intention du cœur. C'est pas la bonne intention qu'on se donne pour faire des choses. Quand on dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions, on veut dire que une bonne intention peut en cacher une mauvaise. Je sais pas, moi, je donne de l'argent à quelqu'un, je fais un don dans l'intention d'aider la personne, mais en réalité, c'est surtout pour ma propre gloire que je le fais. Mais l'intention du cœur peut nous échapper. Mais ce qui doit être purifié, c'est l'intention profonde qui, comme dit saint Augustin, préside à toutes nos actions. C'est cette intention profonde du cœur que Jésus, sur lequel Jésus met le doigt, hein, et auquel il insiste, et auquel il nous appelle aussi à être plus en vérité, parce qu'on peut se la cacher à soi-même, son intention. Donc, pourquoi je vous redire ça? C'est parce que il y a là une grâce qui a été donnée à la communauté de pouvoir suivre comme dans l'appel à la sainteté, de pouvoir suivre et d'être à l'école de la petite Thérèse. Mais encore une fois, qui ne doit pas nous faire oublier la tradition ascétique de l'Église, et notamment donc la nécessité de lutter contre les convoitises. Voilà. Je crois avoir assez expliqué la part et l'esprit dans lequel on devait vivre ce travail. Je voudrais terminer ce soir la question du chemin de sanctification en mettant en évidence une autre grâce qui a été donnée à la communauté dès l'origine, c'est de pouvoir prendre Marie comme mère spirituelle, comme éducatrice. Je vous ai cité Saint Louis-Marie Grignon de Montfort avec ses histoires de cèdres du Liban qui sont finalement déracinés, et ce sont une image de ceux qui finalement perdent les grâces qu'ils avaient reçues parce qu'ils n'ont pas fait attention au fait que plus on est grand, plus on doit s'abaisser. S'approprier les grâces de Dieu, se glorifier des œuvres que l'on fait pour Dieu, évidemment, c'est là une tentation profonde. Et quelle est l'intuition de Saint Louis-Marie quand il écrit le traité de la vraie dévotion? En réalité, il explique que par cette dévotion à la Vierge, elle nous gardera dans l'humilité et la pureté, et elle nous amènera à vivre dans son cœur immaculé, les purifications ultimes. Et il, je ne sais pas s'il avait lu Saint Jean de la Croix, La Nuit Obscure, je ne pense pas, mais il dit que grâce à Marie, qu'il appelle la confiture des croix, les purifications douloureuses du cœur nécessaires à la sainteté seront, je dirais, adoucies. Il prend l'image de noix qui sont amères, mais si on met de la confiture, si elles sont confites, l'amertume passe. Pour expliquer que pour cette purification radicale du cœur qui est nécessaire, sans laquelle on risque de perdre les grâces qu'on a reçues, même si on est déjà parvenu à la contemplation, Saint Louis Marie de Montfort donc montre que c'est à ce moment-là qu'on a besoin pour les purifications ultimes, qu'on a le plus besoin de Marie. Et ça, c'est un message qui a été vrai depuis le début de l'Église, mais qui est vrai spécialement pour notre temps. Le fait de nous réfugier dans le cœur immaculé de Marie. Comment on peut comprendre ça? On peut comprendre ça dans le sens où la grâce de Marie, le secret de Marie, c'est l'humilité. Comme je vous l'ai dit, en citant Saint-Louis Marie de Montfort, qui dit que Marie est relation à Dieu, elle est la seule créature, comme disait le Père Thomas, qui ne s'est jamais regardée elle-même. Elle a échappé à cette secrète recherche de soi, à cette complaisance en soi, à la complaisance en soi dans les œuvres. Elle ne s'est jamais laissée aller à se glorifier dans ses œuvres, mais elle a toujours vécu dans l'action de grâce, dans la reconnaissance que tout vient de Dieu. Elle a aimé dépendre de Dieu et de plus en plus. Elle s'est laissée enfoncer dans une voie de petitesse en suivant la première, l'enfant Jésus. Père Thomas Philippe aimait dire que Marie, au moment de l'Annonciation, elle a trouvé en Jésus plus petit qu'elle. Et elle a suivi Jésus dans sa petitesse, dans son abaissement. Elle a grandi en humilité jusqu'à la fin de sa vie. Elle a été de plus en plus petite, de plus en plus abandonnée. Donc la voix d'enfance, en réalité, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus le dit à la fin de sa vie, elle dit « Ma voix d'enfance, c'est la voix de Marie. » C'est là qu'elle a écrit ce beau poème « Pourquoi je t'aime, ô Marie ?» Donc en fait, entre Saint-Louis Marie de Montfort et la petite Thérèse, il y a en réalité une proximité très grande. Parce que Saint-Louis Marie de Montfort nous demande de nous mettre à l'école de Marie, de nous laisser modeler par elle, d'entrer dans son cœur pour trouver dans son cœur les dispositions que Dieu attend de nous. Et ces dispositions, c'est celles de l'enfance. Ces dispositions du tout petit. Donc, suivre une voie d'enfance avec Marie. Je vous rappelle que Thérèse de l'Enfant Jésus est carmélite et que le Carmel, c'est le seul ordre reconnu par l'Église comme fondé par la Vierge. Il semble que, si mes renseignements sont bons, il semble que les sœurs de Bethléem aient obtenu aussi ce privilège d'être reconnues comme fondées par la Vierge. Enfin, disons que le premier ordre dans l'Église à être, je dirais, celui de l'école de Marie, c'est l'ordre du Carmel comme de Notre-Dame du Mont-Carmel. Et donc, Thérèse était, de par son état, une fille de Marie, avant d'être une fille de Sainte Thérèse d'Avila, elle était une fille de Marie à l'école de Marie dans le Carmel. C'est pas étonnant que le Carmel ait donné à l'Église les plus grands mystiques, puisque la spiritualité du Carmel, en définitive, on peut dire que c'est la spiritualité de la Vierge. Et c'est une spiritualité qui est pour l'Église universelle. Ce que décrit Saint Jean de la Croix, ce n'est pas une spiritualité particulière, c'est pour l'Église universelle. Ce qu'a écrit la petite Thérèse, c'est aussi, ce sont des saints docteurs qui ont su aller à l'essentiel du chemin de la sainteté. Alors je ne pense pas que Pierre Goursat était spécialement connaissait particulièrement Saint Jean de la Croix, mais instinctivement il s'est mis à l'école de la petite Thérèse quand il s'est converti à l'âge de 20 ans et qu'il a senti que sa tentation et son péché c'était l'orgueil. Et puis ensuite, progressivement, Marie a pris de plus en plus de place dans sa vie. Il a compris qu'il ne pouvait se rapprocher du cœur de Jésus que par le cœur de Marie. Prendre Marie comme mère spirituelle, c'est se réfugier dans son cœur immaculé quand on sent à quel point l'orgueil spirituel nous contamine. Et notamment, je vous invite, vous voyez, quand vous sentez que vous êtes pris dans les filets de la vaine gloire, à rechercher une place, une reconnaissance, ou à vous regarder vous-même dans ce que vous faites, à tout de suite recourir à Marie. C'est comme si Jésus avait voulu que nous donner les dispositions dont nous avons besoin pour entrer dans sa vie filiale, nous les donner par la médiation de Marie. Parce qu'il a voulu qu'il y ait une créature qui soit totalement ouverte et qui se laisse totalement façonner par lui, comme fille bien-aimée du Père, et que nous puissions trouver en elle notre modèle absolu de vie chrétienne. En fait, nous n'avons qu'un seul modèle de disciple de Jésus qui soit parfait, c'est la Vierge. Je dis bien modèle de disciple de Jésus. Marie est la première disciple de Jésus. Elle a suivi Jésus de la manière la plus profonde et la plus radicale. Elle a suivi Jésus dans la petitesse et dans l'abandon. Elle n'a pas été martyre comme saint Paul. Elle n'a pas prêché comme saint Paul. Elle n'a pas imité Jésus par les œuvres. Elle a imité Jésus dans cette vie tout en Dieu. Et cette imitation de Jésus dans ce qui est sa vie intime de fils bien-aimé du Père, que la Vierge a vécu, comme fille bien-aimée du Père à sa suite, c'est donc ça le cœur de la vie chrétienne, et c'est cela qui est accessible à tous. C'est-à-dire, quelle que soit ma situation, je pourrai toujours m'enfoncer dans cette vie filiale. Parce que, encore une fois, Dieu fait tout concourir à cette fin ultime, seule vraie fin de notre vie. Donc, en réalité, le chemin de Marie qui simplifie la vie chrétienne jusqu'à la réduire à vraiment l'essentiel. Saint Thomas d'Aquin disait, c'est le père Thomas Philippe qui aimait citer ça, que Marie avait tous les charismes et qu'elle n'en exerçait aucun, sauf au moment du Magnificat. On n'est pas obligé d'adhérer à cette affirmation de saint Thomas d'Aquin, mais on est obligé de reconnaître que Marie dans l'Évangile ne guérit pas, ne fait pas de miracles, ne prêche pas. C'est-à-dire, on ne voit pas de choses qui, allez, on ne voit pas d'œuvre extérieure extraordinaire. Elle a eu une vie plus ordinaire et plus apparemment insignifiante encore que la petite Thérèse. Et puis surtout, une vie cachée à Nazareth, une vie cachée ensuite, après la Pentecôte. On la voit à des moments des points cruciaux au pied de la croix et au moment de la Pentecôte. Mais sinon, c'est l'enfoncement dans une vie tout ordinaire. Ce modèle d'une vie tout ordinaire est là pour nous permettre de comprendre que la sainteté n'est pas dans les grandes œuvres, mais de fait de vivre d'une manière extraordinaire les choses ordinaires. Marie met la balle au centre. Marie nous remet dans l'axe. Marie nous préserve de jugements prématurés sur la réussite de notre vie. Marie nous aide à croire à l'amour jusqu'au bout et à la fécondité de l'amour, même si on ne voit rien comme fruit visible. Elle a vécu le sacrifice de ne pas voir les fruits, bien plus encore que la petite Thérèse. Rien qui dépasse. Donc, si vous voulez, elle est vraiment la mère de tous, le modèle pour tous. Qu'on soit un petit génie théologique, qu'on soit handicapé mental, on a la même mère, le même modèle. Père Thomas Philippe, quand il a commencé à être aumônier d'une clinique d'handicapés mentaux, il était encore très dépendant de la vision thomiste, de la sanctification au sens que l'homme se sanctifie à travers des actes libres, volontaires, dans lesquels sa liberté est engagée. Pour saint Thomas d'Aquin, personne handicapée mentale reçoit la grâce du baptême, et quand elle ne peut pas poser d'actes libres, elle ne peut pas avancer dans la sainteté. Et Père Thomas est obligé de voir que même les polyhandicapés, les handicapés les plus graves, avançaient dans la sainteté. Elle est obligée de réviser sa vision du développement de la vie de la grâce et de comprendre qu'il y a une liberté ultime qui appartient à tous, qu'on soit handicapé mental, qu'on soit même dans un état de coma ou dans un service de réanimation, ou qu'on soit en pleine possession de toutes ses facultés. De toute façon, on a un cœur profond, qui sera toujours capable de consentir à l'amour, de s'ouvrir à l'amour du Père, qui frappe à travers son Fils à la porte de notre cœur, du cœur de tout homme. Le chemin de Marie, c'est le chemin de l'ouverture du cœur dans l'humilité et la confiance qui conduit à l'abandon. Et ça, ce sera toujours possible. Rien, jamais rien, ne pourra nous empêcher de prononcer notre fiat avec Marie. En fait, le père Thomas Philippe a été amené à découvrir cette réalité cachée, comme dit le catéchisme, insaisissable par la raison, qu'est le cœur. À prendre au sérieux cette réalité que Jésus révèle comme étant le lieu secret où Dieu voit ce qui se passe dans le secret, et qu'il révèle en même temps comme étant la racine de toute notre vie, et là où se joue non pas une liberté d'efficacité, c'est-à-dire une liberté de faire une chose ou de ne pas la faire, mais une liberté de consentement, encore une fois. Liberté de s'ouvrir ou de se fermer. Quand bien même nous n'aurions plus l'usage de la raison. Il y a quelque chose de plus profond qui fait que tout homme est appelé à la vie éternelle et travaillé par la grâce et peut répondre à la grâce. Et Marie, elle est le modèle de ça aussi. Elle est le modèle pour ça surtout. Parce que sa vie n'a été qu'un fiat plus intime de son cœur qui n'a cessé de s'agrandir. J'aime bien raconter l'histoire que je vais vous raconter. Quand j'étais en stage à l'Arche, j'étais séminariste, c'était en 86, j'étais venu en fait pour rencontrer le père Thomas, mais j'étais en même temps pendant un mois dans une des foyers de l'Arche. Et j'ai eu l'occasion d'aller à la Forestière, qui est le foyer pour les polyhandicapés. Et pendant une demi-heure, j'ai tenu dans mes bras un homme de 35 ans, plus âgé que moi, qui était polyhandicapé, sourd, aveugle, muet. Et il n'était pas plus de taille d'un enfant de 4 ans. Je l'ai reçu dans la foi, comme si on me laissait porter le Christ, et je le tenais contre mon cœur, et j'étais en paix dans la prière, et lui-même était en paix. Un moment, sans que je bouge du tout, mon cœur s'est troublé parce que j'ai eu un moment d'inquiétude en pensant à l'heure qui passait, et j'ai esquissé un petit mouvement pour voir ma montre. Mais avant même que j'aie pu voir ma montre, lui s'est mis à crier. Le trouble plus intime de mon cœur avait rejoint son cœur à lui. Alors j'étais un peu surpris par la coïncidence à la seconde près, et je suis allé voir la personne responsable en lui expliquant ce qui s'était passé. Il m'a raconté l'histoire suivante. Cet enfant avait une mère qui était morte il y a quelques semaines après une longue agonie de plusieurs mois, et elle habitait à plusieurs centaines de kilomètres. Pendant tout le temps de son agonie, son fils, polyhandicapé, aveugle, sourd, muet, ne parlant pas, ne comprenant pas, rien, tout ça, criait toutes les nuits. Le jour où elle est morte, du jour au lendemain, il a cessé de crier. Alors, les personnes de l'Arche ont voulu quand même faire leur possible pour lui faire voir. Ah oui, non, il ne devait pas être aveugle, puisqu'ils lui ont montré une photo du cercueil, avec sa maman dedans. Quand il a vu la photo, il a fait un signe de tête vers la chapelle. On l'a fait rentrer dans la chapelle. Une fois dans la chapelle, il a fait un signe de tête vers le tabernacle. On l'a amené près du tabernacle. Une fois qu'il est près du tabernacle, il a embrassé le tabernacle. Et ensuite, il a fait un signe de tête pour revenir. Aucune catéchèse sur l'Eucharistie, rien. Ça, c'est sa liberté. C'est son acquiescement, c'est son fiat à l'amour de Dieu. C'est son cœur d'enfant. C'est la charité divine qui l'anime et qui l'inspire. Et cet homme-là, de 35 ans, handicapé, débile profond, incapable de parler et de penser, suit Jésus. Un vrai disciple de Jésus. Il chemine vers la sainteté. Il avance avec Marie, comme Marie. Il n'y a plus de place pour les œuvres, c'est sûr. Il y a des tentations qu'il n'a pas. Il n'y a pas de retour sur soi parce qu'il n'est pas dans une conscience réflexe de lui-même. Mais par contre, sa liberté quand même la réelle, c'est-à-dire que il peut malgré tout, au fond de son cœur, se fermer comme s'ouvrir. Enfin, il ne peut s'ouvrir qu'avec la grâce prévenante de Dieu, qu'avec la grâce de Dieu, mais il peut se fermer sans la grâce de Dieu. Les personnes handicapées n'ont pas tous le même chemin. Ils ne sont pas tous aussi réceptifs. Notre personne qui m'a impressionné, c'est la Philippine, la fille de Sophie Lutz, polyhandicapée au dernier degré. Elle devrait, selon la science, être morte depuis longtemps. Elle n'aurait pas dû survivre. Eh bien, quand il y a la louange, alors elle, je crois qu'elle, elle est vraiment aveugle, elle ne voit rien. En tout cas, elle n'entend rien. C'est le polyhandicap le plus grand que j'ai connu. pour ma part. Quand il y a la louange, elle bat la mesure avec son petit bras. Elle accompagne. Ça, c'est sa liberté de consentement. Ceux qui sont animés par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Elle est animée par l'Esprit de Dieu, mais c'est pas sans sa liberté. Et de penser que des personnes comme ça cheminent vers le ciel, en suivant la voie d'enfance, d'humilité, de confiance et d'abandon, au fond de leur cœur, sans être capables de poser aucun acte conscient, volontaire, de libre arbitre de l'homme adulte, mais par la liberté la plus profonde, celle qui se joue dans notre cœur, là où, comme dit le catéchisme, tout se noue ou se dénoue. Ben, c'est profondément libérant. On peut se retrouver tous du jour au lendemain dans une chaise roulante, handicapée, cérébrale, moteur. Il y a un enfant sur la paroisse, il s'appelle Charles, enfin je dis un enfant, il a 20 ans maintenant. Il a eu un accident, lui, à sa naissance. Il est en fauteuil, il est polyhandicapé, c'est un accident au cerveau. Quelquefois, il dit bonsoir. Moi, je ne sais pas si je l'ai en 4 ans entendu une fois dire bonsoir, mais il reconnaît quand même le son des voix, tout ça, mais il ne parle pas. Sauf quand on dit le chapelet, quand on célèbre la messe. Oui, là, il fait toutes les prières. En fait, il ne parle qu'à Dieu. Et là, il n'y a aucun problème. Il dit ses prières. Alors un phénomène que j'ai perçu, lui est bien plus que d'autres, il a cette intelligence du cœur hyper développée par son humilité et son abandon, par l'action de l'Esprit Saint, qui fait que quand je médite un petit peu, je dis 2-3 mots à chaque mystère, c'est moi qui anime un peu le chapelet. Vous savez, par le ton de la voix et aussi par l'ensemble du discours, on peut à certains moments deviner que c'est la fin. Mais lui, c'est à la seconde près qu'il commence le Notre Père. C'est d'instinct que j'ai arrêté, que j'ai fini, je ne vais pas en rajouter une. Ça commence à la seconde près, il ne s'est jamais trompé. Il ne m'a jamais interrompu alors que je voulais dire encore un truc. Donc, paf. Cet instinct qui fait sentir le moment juste, hop, il est parti. Et puis, je me rends compte que quand je prêche et que je suis... Il y a des moments où je me laisse davantage, je sens la présence de l'Esprit Saint, il me laisse davantage animé pour lui. Je vois qu'il réagit immédiatement au niveau d'un sourire, une réaction au niveau de son visage, qui fait qu'il sent, comme on dit, l'onction de l'Esprit Saint. Et aussi, dès que je lui donne le style, il y a ce sourire, cette rencontre, aimante avec son Dieu fait homme passionné qui se vit immédiatement, et c'est lui qui porte. Sa maman témoigne que c'est lui le sein de la famille, mais on sent bien que sa liberté est engagée dans ce chemin-là. Voyez, à travers ces plus pauvres, ceux que le monde méprise parce qu'ils ne peuvent se glorifier de rien de visible, c'est la vie mystique, la vie cachée en Dieu, la vie chrétienne dans sa pureté qui est signifiée. Eh bien, la Vierge Marie, elle a vécu à ce niveau-là, tout en étant en pleine possession de ses facultés. Elle a été toute petite, ne faisant rien d'elle-même, toute dépendante à la grâce, tout ce qu'elle a pu dire ou faire venait de cette ouverture profonde de son cœur à la grâce qui ensuite produisait ses œuvres en elle. Le premier petit totalement dépendant de la grâce qui a vécu donc cet abandon permanent, c'est-à-dire cet abandon total qui fait qu'on n'agit plus de soi-même, mais on est mû par l'Esprit Saint, bien c'est Jésus. En vérité, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Jean 5, 19. Jean 5, 30. Je ne puis rien faire de moi-même. Il n'y a pas de place pour une volonté propre. Il n'y a pas de place pour une agir propre, pour une pensée propre. La vie filiale, elle s'enracine dans une réceptivité, un accueil, un se laisser aimer et se laisser faire, qui fait que Dieu fait ses œuvres en nous et à travers nous. À un autre moment, Jésus dit, si mes souvenirs sont bons, les paroles que je vous dis, Jean 14, 10, je ne les dis pas de moi-même, mais le Père, demeurant en moi, fait ses œuvres. Je ne fais rien de moi-même, je ne puis rien faire de moi-même, parce que je suis dépendance au Père, pure filiation. Mais le Père fait ses œuvres en moi. Moi, je vis par le Père. Marie a suivi Jésus dans cette humilité, dans cette dépendance filiale, dans cet abandon, dans cette passivité qui est l'activité la plus haute de l'homme. Sacrifice le plus grand dans une livraison de soi. Pour ça que la petite Thérèse a pu dire qu'il y avait plus de mérite à recevoir qu'à donner. Parce que le vrai sacrifice, il est dans ce dessaisissement de nous-mêmes, ce lâcher prise, se laisser aimer, se laisser faire, dans cet abandon, dans ce renoncement à toute forme d'indépendance, de réalisation de soi par soi. Cette voie d'enfance, voyez, qui nous conduit à vivre notre vie comme une obéissance filiale, amoureuse, aimante, dans laquelle on trouve sa joie, dans l'obéissance elle-même, a conduit Jésus jusqu'à la croix, et c'est sur la croix que cette obéissance donc, a été portée à sa prête. Perfection. Tout le Fils qu'il était, il a pris par ses souffrances l'obéissance, nous dit l'Écriture. La petite Thérèse de l'enfant Jésus a été conduite de la voie d'enfance à être sainte Thérèse de l'enfant Jésus et de la sainte face, c'est-à-dire à vivre elle-même l'obéissance et l'abandon à Dieu dans la nuit, suivant Jésus. Voyez, dans son abandon filial, dans ce qu'il y a de plus intime dans le mystère de la Passion. On peut dire que les martyrs, les premiers martyrs ont suivi Jésus dans la souffrance corporelle. Mais la petite Thérèse, elle a suivi Jésus dans la souffrance d'âme. Jésus s'est abandonné à son Père alors même que toute communion avec le Père était comme suspendue. Et la petite Thérèse, elle s'est abandonnée dans la nuit de la foi, qui est autre chose que la nuit de l'esprit. La nuit de l'esprit, c'est une nuit purificatrice, celle dont Père Thomas Philippe parlait en disant qu'il avait frôlé la folie, tellement ça a été pour lui une longue agonie. Mais la nuit de la petite Thérèse, ça vient après l'union intime c'est Nuit Rédemptrice, dans laquelle on rentre avec ce cœur d'enfant, et dans laquelle le cœur d'enfant trouve dans la croix la matière d'une livraison, d'un abandon, d'une dépendance à Dieu plus grande encore. Ça a été la vie de Marie à partir de la croix. On peut penser même avant, puisque le cœur de Jésus a été agonisant. Selon la méditation, la contemplation des mystiques, a été agonisant dès qu'il a été conçu dans le sein de Marie. Il a éprouvé la froideur et la réalité du péché et du rejet de Dieu. Il l'a éprouvé dans son cœur. Et Marie, en même temps qu'elle a commencé à battre, que son cœur a commencé à battre à l'unisson du cœur de Jésus, a dû, dès le commencement, commencer à communier quelque part à la souffrance de son fils. Mais on dit que la maternité spirituelle de Marie, elle trouve son point de... On ne peut pas dire sommet, parce que ça a continué par la suite, mais il y a eu... de fait une étape décisive quand elle s'est retrouvée au pied de la croix. De quelle manière Marie au pied de la croix a été amenée à communier à la souffrance de son fils, moi je n'ai pas de lumière particulière, mais si on voit la vie d'une petite Thérèse, eh bien on comprend que c'était d'abord une souffrance d'âme. Marie n'a pas vécu le martyr du sang de toute façon, mais elle a vécu le martyr du cœur. Elle a connu bien plus que la petite Thérèse la nuit, cette nuit rédemptrice, pour pouvoir aller suivre Jésus jusqu'au bout dans l'abandon, qui est lui, Jésus, qui a voulu connaître la nuit du péché sur la croix pour nous. Donc ici, je voudrais vous faire comprendre que cette vie cachée filiale, elle conduit à une participation très intime au mystère de la rédemption. Celui qui vit d'une vie d'amour filial, comme la petite Thérèse, ressent avec une profondeur beaucoup plus grande le mal du péché comme refus de l'amour du Père. C'est Jean-Paul II qui insiste sur le fait que Jésus a ressenti, éprouvé le mal du péché par la profondeur même de son union au Père. C'est pas comme l'ont pensé certains théologiens que Jésus, étant uni au Père et jouissant de la vision béatifique, quelque part, n'aurait pas pu, être totalement immergé dans la souffrance, puisqu'il restait le Fils bien-aimé du Père, dans la vision du Père. Mais en réalité, il faut comprendre que Jésus, certes sur la croix, continue à être le Fils qui voit le Père, qui donc connaît la joie la plus grande, qui est la joie du ciel, mais cette joie est complètement enfouie. Elle ne parvient plus, elle n'irrigue plus, elle ne touche plus son humanité. Dans son cœur d'homme, dans son humanité, Jésus vit le délaissement le plus total. Il vit et il éprouve le mal du péché comme séparation d'avec le Père. C'est pour ça qu'il peut crier en toute vérité, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et il l'éprouve de par la profondeur de son amour et de son union filiale au Père. Non seulement cette union filiale au Père ne l'empêche pas de vivre l'agonie, mais au contraire, lui permet de vivre l'agonie. D'une manière semblable, voyez, la personne qui vit de cette vie d'amour tout abandonnée au Père, elle ressent de plus en plus le mal du péché comme désobéissance, comme refus de l'amour du Père, et donc elle porte de plus en plus. dont elle compatit de plus en plus, et donc elle participe de plus en plus à la rédemption. Pas besoin du martyr du corps. Martyr du cœur, martyr de Marie. Je pense que ces personnes handicapées qui se laissent conduire par Jésus sur une voie d'enfant sont en même temps des martyrs de la dureté et de la froideur du monde, qu'ils ressentent bien plus qu'on ne peut le penser, et qu'ils vivent une communion intime à la souffrance de Jésus. Jean-Paul II disait « on n'aime pas les pauvres parce qu'on n'aime pas Jésus ». Mais ils ont une sensibilité du cœur profond tellement aiguisée par leur état de passivité, de faiblesse et d'abandon, qu'ils ressentent tout ce qui est contraire à l'amour dans le monde et autour d'eux. Ils en souffrent, ils le portent, c'est Jésus qui continue sa passion en eux. Alors encore une fois, c'est pas notre chemin à nous, nous sommes adultes, conscients, on fait des choses, on a une mission, on est content d'avoir un apostolat, de servir, de se sentir utile et tout ça. Mais de garder ça comme modèle de sainteté, la vie de Marie, toute dans l'enfouissement, dans la vie cachée, dans l'abandon. Et de penser que ça, c'est la vraie réussite de notre vie. Ma vocation dans l'Église, je l'ai trouvée, c'est l'amour de la petite Thérèse. Mais l'amour, c'est l'abandon au Père. La vocation, c'est l'amour. Donc je peux lâcher les œuvres. Elle qui voulait être missionnaire, qui voulait être martyr, elle n'a rien connu de tout ce qu'elle aurait aimé faire pour Dieu, mais elle s'est laissée enfoncer dans la voie de Marie. Voyez comme c'est important de prendre Marie comme modèle de sainteté. C'est le seul modèle qui sera toujours accessible à tous les moments de notre vie. Les autres saints ont tous quelque chose de particulier qui est inimitable. Marie, elle est imitable en tout. Dieu l'a simplifiée au maximum pour qu'elle soit imitable, toujours. Elle est réduite à l'essentiel de la vie chrétienne. Pour ça, Saint Bernard dit, si tu désespères, regarde Marie, l'étoile de la mer, elle nous rappelle ce qui fait la vraie valeur d'une vie. Elle nous préserve du découragement, du jugement sur nous-mêmes à partir de ce que nous faisons ou ne faisons pas. Elle nous permet d'accepter nos faiblesses, nos limites, nos handicaps et de parier sur l'amour jusqu'au bout. Donc pour revenir à Jean-Paul II, le chemin qu'il a fait, c'est conduit par Marie qu'il l'a fait. Parce que c'était un hyperactif, c'était pas du tout, il n'était pas au départ formaté pour vivre une vie d'ermite dans la plus grande inutilité. C'était un homme qui aimait l'action, très clairement. Hein? Marie a choisi quelqu'un... Qui avait besoin vraiment d'être éduqué par elle, et elle l'a éduqué jusqu'au bout. Elle lui a vraiment fait faire un chemin qui n'aurait été pas possible pour lui s'il ne s'était pas laissé faire par sa mère du ciel. Quand on se consacre à Marie, on est comme Saint-Louis-Marie de Montfort dit qu'on est comme Jacob qui doit recevoir la bénédiction de son père. Pour ça, il doit revêtir les vêtements de son frère. Vous connaissez l'histoire. Il doit revêtir les vêtements de son frère pour que son père le prenne pour son frère aîné et qu'il reçoive la bénédiction à la place de son frère aîné. C'est pas très, moral, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Faut dire que le frère aîné en question avait vendu son droit d'aînesse pour un plat de lentilles, donc quelque part c'était juste en même temps. Enfin, celui qui a été. Celui qui n'a pas bien compris ce qui se passait, c'est le père en question. Mais pour Sainte-Marie Grillon de Montfort, c'est une image de Marie. Rebecca représente Marie, et Marie est là pour nous revêtir des vêtements du Christ. Nous revêtir du Christ, pour qu'on reçoive, pour qu'on plaise au Père. Que notre vie lui soit un plat agréable. Mais pour que nous puissions revêtir les vêtements du Christ, nous devons, comme Jacob, donner à notre Mère du Ciel deux chevreaux. C'était des chevreaux, je ne me souviens plus bien, mais en tout cas, deux chevreaux qui, pour Sainte-Marie de Montfort, qu'elle a tué, Marie les a tués, les a écorchés vifs, enfin écorchés, elle a pris la peau, et c'est comme ça qu'elle a revêtu, parce que Ésaü avait des gros poils. Hein? Donc, ce genre-là, il était très poilu, Ésaü. Donc, mettant la peau de chevreau, le père qui touchait le bras, on dit, mais c'est la voix de Jacob, mais c'est le bras d'Ésaü. En fait, c'était les poils des chevreaux en question. Eh bien, Sainte-Marie de Montfort, il faut que je vous retrouve le passage, parce que j'ai une si mauvaise mémoire que...
C'est dans quel passage?
Attendez. Alors, oui, il dit que les deux chevreaux en question, c'est notre corps et notre âme. Tu choisis aujourd'hui au marié, en présence de la cour céleste, je t'offre, consacre en toute soumission et amour, mon corps et mon âme. Et qu'est-ce qu'elle fait avec notre corps et notre âme? Purification de la chair et de l'esprit. Saint-Marie de Montfort dit qu'elle les tue, pas plus ni moins. C'est moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. La mort à soi. Hein? Et donc, si on se consacre à la Vierge, c'est pour qu'elle fasse le travail qu'on n'aurait pas la force de faire, c'est-à-dire qu'elle nous conduise jusqu'au bout de ce chemin de renoncement à nous-mêmes, à notre moi, possessif, dominateur et orgueilleux, qu'elle nous dépouille du vieil homme, et qu'elle nous revête des vêtements de Jésus-Christ. Ah voilà, je l'ai retrouvé. L'histoire de Jacob. Voilà. Il lui apporte et lui donne non deux chevreaux, comme Jacob à Rebecca, mais leur corps et leur âme, avec tout ce qui en dépend, figuré par les deux chevreaux de Jacob, afin qu'elle les reçoive comme une chose qui lui appartient, afin qu'elle les tue et les fasse mourir au péché et à eux-mêmes, en les écorchant, dépouillant de leur propre peau et de leur amour propre. Et par ce moyen, pour plaire à Jésus son Fils, qui ne veut pour ses amis et disciples que des morts à eux-mêmes. Enfin, qu'elle les apprête au goût du Père Céleste, et à sa plus grande gloire, qu'elle connaît mieux qu'aucune créature. Afin que par ses soins et ses intercessions, ce corps et cette âme, bien purifiés de toute tâche, bien morts, bien dépouillés, bien apprêtés, soient un mets délicat, digne de la bouche et de la bénédiction du Père Céleste. N'est-ce pas ce que feront les personnes prédestinées qui goûteront et pratiqueront la consécration parfaite à Jésus-Christ par les mains de Marie?
Le programme est clair.
Pas de d'union très intime à Jésus sans consécration à Marie, disait Jean-Paul II. Pas de participation très intime à la rédemption sans consécration à Marie, a-t-il dit aussi. Si la victoire vient, elle viendra par Marie. Pour Pourquoi ? Parce que le péché de l'homme modèle, c'est l'orgueil, la volonté d'indépendance. Marie est la femme immaculée qui écrase la tête du serpent par son humilité. Donc, voyez, l'appel à la sainteté dans la communauté, hein, ça ne peut pas être, ça ne doit pas se résumer à un appel à donner toujours plus, à être de plus en plus serviable, à faire de plus en plus de choses pour Dieu. Il ne faut vraiment pas se tromper. Il faut mettre la barre beaucoup plus haut, à la fois beaucoup plus haut et beaucoup plus bas. Si vous me suivez. Si on veut écraser la tête du serpent. Remporter une vraie victoire. Si la victoire vient, elle viendra par Marie, et me dire Jean-Paul II, c'était le cardinal de Pologne qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, avait dit ça. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.